Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radiographite, Graphite.net et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibé.blogspot.com. Hé
hey, les garçons, je n'arrive pas à me décider sur le choix de la robe que je dois mettre pour sortir avec Vincent. La bleue ou la beige?
La bleue.
Ah bravo les super-héros, vous êtes bien tous les mêmes. Over bulky,
kind of hokey super-hero. A two-fisted canned electrically transistor super-hero. An exotically neurotic
and aquatic super-hero.
The Marvel super-heroes have arrived.
Au sommaire, aujourd'hui, une spéciale super-héros. Et plus particulièrement, nous allons nous pencher sur une collection super-héros, la collection super-héros d'Éléphant de Film, qui contient donc la série L'Incroyable Hulk. Ça, on en a déjà parlé lors de sa sortie, donc je vais vous faire un petit rappel, mais je vais aller très vite. Mais aussi la série animée Superman, des studios Max Fleischer, le cultissime Howard the Duck de Willard Huyck, qui est quand même historiquement le premier vrai film Marvel hein, pour le cinéma. Les deux Captain America avec Reb Brown et le Docteur Strange de 1978 signé du vétéran de la télé Philippe de Guerre. L'équipe de Culture Prohibée remercie Victor Lopez pour son aide sur cette émission. Pour causer super-héros, je suis accompagné aujourd'hui d'un véritable super-héros. Il est venu dans son collant, lycra moulant, avec un magnifique sigle sur le torse, sur son torse musclé. Je vais bien sûr parler de la bête noire de Compiègne, archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées la nuit. Il s'appelle Damien Demey, il est dans ce studio. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
C'est avec un grand plaisir, Damien, qu'on va pouvoir parler aujourd'hui super-héros, une passion qui nous anime. Alors moi, depuis plus longtemps que toi, mais c'est une question d'âge, puisque j'ai quand même... Quand on me demande toujours comment t'as appris à lire, eh ben, c'était avec les albums Artima, L'Incroyable Hulk, Camondi, Année Zéro, voilà, où j'ai appris à lire, je ne savais pas lire, et j'imaginais les histoires, parce que c'était ces BD de Stan Lee, Jack Kirby, ou bien John Buscema, ou Steve Ditko, étaient tellement... chargée d'univers, était tellement puissante, forte que moi je me faisais des films, je m'inventais des histoires. Quand j'ai su lire, après j'ai découvert que parfois les histoires, je m'étais pas trop planté. Hulk par exemple, j'avais bien compris Hulk. Et c'est vrai que l'Incroyable Hulk, c'était quand j'étais tout petit ma BD préférée. Et c'est marrant, aujourd'hui on va parler de deux BD qui étaient dans mes BD préférées quand j'étais petit, c'est-à-dire l'Incroyable Hulk. Et Captain America, j'adorais aussi Captain America quand j'étais gamin. Et ça me fait une petite bouffée de nostalgie du coup, voilà. Et cet incroyable Hulk, bon, je vais vous parler, je vais faire assez vite, parce qu'on a déjà pas mal abordé cette série dans une saison précédente. Et cet incroyable Hulk, qui est un peu modifié d'ailleurs dans la version télé, hein, qui s'appelle David Banner. D'ailleurs, sais-tu pourquoi Damien il s'appelle David Banner?
Absolument pas.
Eh bien, en fait, dans la BD, il s'appelle Bruce Banner. Voilà. Il est contaminé par des rayons gamma et du coup, quand il se met en colère, il devient un gros monstre vert qui s'appelle Hulk.
Voilà. Jusqu'à là, je suis.
Voilà. Eh bien, dans la série, qui est une série chapeautée par Kenneth Johnson, qui est un maître des séries quand même, hein, de son époque, qui a fait entre autres L'Homme qui valait 3 milliards et la série V, hein, la série V originelle, qui est quand même une série qui a fortement marqué surtout les gens de ma génération qui sont nés au début des 70, parce que c'était quand même une série avec des effets spéciaux un peu dégueux et tout, enfin bref, qui nous faisait bien délirer, qui passait à des heures de grande écoute sur un grand média national, Antenne 2 à l'époque, et oui, ça s'est appelé Antenne 2, les amis, avant que ça s'appelle France 2. Et là, il a décidé, Kenneth Johnson, qui était pourtant un type plutôt progressiste, hein, mais de ne pas appeler son héros Bruce, parce que Bruce est connoté homosexuel, selon les dires de Kenneth Johnson et d'autres personnes qui travaillaient sur la série. Voilà, ils ont choisi d'appeler le héros David et non pas Bruce, parce que Bruce aurait pu être assimilé à de l'homosexualité. Alors, c'est là qu'on voit que les temps ont changé, et heureusement, j'ai envie de dire, voilà, mais ça fait un peu froid dans le dos, ça fait à la fois rire et froid dans le dos, cette anecdote. C'est comme ça, mais c'est une réalité. Et donc, Bruce Labrousse ne va pas être content, d'ailleurs. Hein. Il le sait peut-être déjà. Et en fin de compte, là, on va décider de prendre comme modèle Le Fugitif, la série Le Fugitif. Et ça va donner quelque chose de très différent de la BD. Ça va être quelque chose de très... Comment dire, cette série a quelque chose de très triste, de très... Voilà, c'est une malédiction, en fait, pour David Banner, j'y arriverai jamais. Hein. Moi, au début, je pensais que c'était d'ailleurs une erreur des doubleurs français, hein, mais c'est pas vrai, c'était pas une erreur des doubleurs français, parce que grâce à cette édition d'Elephant Film, on a les VO, hein, donc on sait que c'était pas une erreur. Mais le fait est que là, c'est Bill Bixby qui campe donc ce David Banner, et qui, en gros, il voyage dans les États-Unis de ville en ville, pour essayer de trouver une solution pour échapper à sa malédiction. À chaque fois, il est pris dans des embrouilles pas possibles, évidemment. Il est obligé de fuir. Mais à chaque fois, il fait le bien, quand même. Il est plutôt gentil. Alors, quand il se transforme en Hulk, c'est Lou Ferrigno. Alors, très, très mauvais acteur, mais très crédible en Hulk, vu que c'est un culturiste monstrueusement balèze. Voilà, qu'on a peinturluré en vert. Et puis, il est poursuivi par le journaliste Jack McGee, campé par Jack Colvin, et qui, lui, est persuadé de savoir la vérité. D'ailleurs, il a raison. Il sait qu'effectivement, Hulk et David Banner sont la même personne, et donc il passe... Il est là à tous les épisodes et il suit les agissements de Hulk à travers les États-Unis. Et c'est une série qui a plutôt bien vieilli malgré tout. Bon, il y a 79 épisodes, hein, ça a duré longtemps, ça a été un vrai succès. Contrairement d'ailleurs à d'autres tentatives de l'époque qu'on va aborder. Parce que cette série, elle a un côté nostalgique, l'incroyable Hulk, un côté triste, un côté à revoir, c'est vraiment très bien. Et d'ailleurs, des téléfilms aussi en ont été tirés, qui sont sortis au cinéma en France. Et ça garde tout son charme, hein, cet incroyable Hulk, cette série télé. Alors évidemment, aujourd'hui sort She-Hulk. Moi, que j'appelle ça Miss Hulk, puisque quand j'étais gamin, les comics, toujours pareil, Artima Color, Marvel, Superstar, c'était Miss Hulk. D'ailleurs, je me souviens avoir acheté Miss Hulk numéro 1. Hein, c'était mon marchand de journaux chez qui j'allais tous les matins, à cette époque-là, et qui, avant d'aller à l'école, et qui disait à ma grand-mère, il y a ça qui est arrivé. Je me rappelle, il y a Miss Hulk qui était arrivée, et je lisais cette BD quand j'étais gamin. Voilà, donc Miss Hulk, qui comme Hulk, donc on le sait maintenant dans la série produite par Disney+, diffusée en tout cas sur Disney+, a découvert le tissu stretch, et c'est son meilleur ami. Voilà,
c'est leur meilleur ami.
Exactement. Alors, mais on va passer, Damien, à l'ancêtre un peu de tous ces comics à la télé, qui est sorti aussi chez Elephant Film, c'est les cartoons des studios Fleischer, Superman, donc. C'est une série qui est créée d'après le personnage de Joe Shuster et Jerry Siegel. Et on connaît tous l'histoire de Joe Shuster et Jerry Siegel en particulier, parce que ils étaient pauvres, ils n'avaient pas gardé les droits de la série, ils se sont fait dépouiller des droits de la création de Superman, comme tous les auteurs d'ailleurs aux États-Unis à l'époque. Il y a eu beaucoup de bagarres. Jack Kirby, l'immense Jack Kirby, a été un des premiers d'ailleurs à se battre pour les droits d'auteur, hein, des dessinateurs et des scénaristes. Et ils ont été un peu sauvés. Alors, grâce au succès du film de Richard Donner, puisqu'il y a eu un procès et ils ont pu récupérer un peu de sous. Et là, ils inspirent donc cette série aux frères Fleischer, Max Fleischer, Dave Fleischer, et qui donc, mon cher Damien, nous signe une série à l'animation fluide, assez belle, qui est une vraie date dans l'histoire de l'animation quand même.
It's a bird, it's a plane. It's Superman. Ça fait bizarre d'entendre cette introduction sans le no, it's Superman. Donc oui, le format est super. C'est des épisodes de 8-10 minutes extrêmement courts. Il y a 17 épisodes qui ont des thématiques variées, typiques de la SF et de l'action de l'époque. En méchant, on a des scientifiques, des robots, des dinosaures, des gangs qui essayent de faire déraper des trains ou exploser des villes. C'est pas exactement le Superman qu'on connaît, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est-à-dire que certes on a l'explosion de Krypton, son père scientifique qui l'envoie sur Terre, mais on n'est pas introduit avec Martha et John Kate qui vont le récupérer. Non, dès le départ on nous dit qu'il arrive, il atterrit sur Terre, il va dans un orphelinat et c'est bien plus tard qu'il arrive au Daily Planet avec ses pouvoirs. Il y a un truc qui est très cool dans la mise en... Alors, les épisodes sont beaux, l'animation est incroyable, je suis encore époustouflé de la fluidité. Quand Superman essaye d'arrêter un train ou qu'il se prend des tirs, il y a le mouvement de ses cheveux. Bon, c'est pas de la qualité d'un Pixar aujourd'hui avec le détail du poil, mais ça donne vraiment du mouvement. Et l'une des forces de ces dessins animés, c'est aussi qu'on sent tout le poids des feuilletons radio. C'est-à-dire que les épisodes ont très peu, au final, de dialogue à l'intérieur. Ils sont généralement au début ou à la fin et que tout le reste est dédié à l'animation. Et comme j'ai dit, l'animation est magnifique, mais en même temps, c'est Fletcher. Donc, quand on demande au papa de Betty Boop, Popeye ou encore Coco le Clown d'animer un truc, c'est absolument magnifique. Peut-être... Le défaut, si je dois citer éventuellement un défaut, c'est Loïs qui est un peu... Enfin, c'est un défaut équilibré parce que Loïs joue quasiment constamment la fille à sauver la jeune demoiselle en détresse. Et en même temps, c'est elle qui fait les articles à la fin. Elle a ce côté déjà bien imposé, mal fait, mais que j'adore, de grande journaliste importante. Et elle a toujours ce truc que j'aime beaucoup, c'est qu'à chaque fois qu'elle doit faire un truc avec Clark Kent, elle arrive à le piéger, à faire le truc tout seul. Bien sûr, derrière, Superman vient à le sauver. Mais au final, Clark Kent n'écrit jamais un article parce que Lois Lane l'a piégé. Du coup, on a un bijou d'animation qui a vraiment marqué parce que dans la série actuelle de la CW Superman et Lois, on a un épisode où l'actuel Superman porte justement le costume du Superman original, donc celui qu'on retrouve dans Max Fleischer, ce que je savais pas, et du coup qui ressemble beaucoup à celui du Kingdom Come de Alex Ross, qui il est particulier et en même temps je le trouve très très beau. Et il y a aussi un dernier truc qui est marquant, c'est toujours dans, je reviens un peu au début de ce que je disais, le slogan du coup de Superman est aussi dit au début avec Truth and Justice, et on n'a pas justement le slogan en entier, parce que d'habitude c'est Truth, Justice and the American Way, qui est un slogan qui récemment a changé vu que Clark Kent Superman a quitté la Terre et que c'est son fils John Kent Superman qui a repris les choses et qui lui a un nouveau slogan qui est Truth, Justice and a Better Tomorrow.
Écoutez Culture Prohibée.
Tu es venu, toi Superman.
Les lendemains n'ont pas toujours été meilleurs pour Marvel, en particulier dans les adaptations qui vont suivre. Parce que là, on a parlé des cartoons de Fleischer, donc on sait que les frères Fleischer, en fait, concurrençaient et faisaient peur à Disney. Ils faisaient un travail époustouflant, mais en fait, ce qui les a coulés, c'est qu'ils n'avaient pas trop le sens du business, visiblement, et que le studio a fini par se casser la figure. Mais leur travail n'a rien à envier à celui d'un Walt Disney à son époque. Hein. C'est magnifique. On va maintenant aller plus loin dans les adaptations, dans ce qui nous est proposé par Elephant Film. Alors, si on avait pris les choses chronologiquement, on aurait dû vous parler du Docteur Strange de 1978, mais on va le garder pour après. Alors on va faire un petit diptyque de 79, parce qu'on va garder quand même le meilleur pour la fin. On va garder les deux, ce qu'on considère nous comme les deux meilleurs titres de, avec l'Incroyable Hulk, mais aussi avec les Superman dont on vient de parler, mais comme les deux meilleurs titres dans ce qui est sorti chez Elephant Film. Vous allez donc les découvrir après. Mais là, on va vous parler de Captain America. Captain America, je crois que c'est sous-titré The Steve Rogers Chronicle, le premier, qui est de Rod Holcomb, qui est de 79, et également de 79, Captain America 2, Death Too Soon, de Ivan Nagy. Alors, qu'est-ce que c'est que cette version de Captain America ? Alors, Captain America, alors Xavier Fournier le rappelle, l'illustre Xavier Fournier, qui était le rédacteur-chef de Comic Box, et puis qui a écrit... qui est déjà venu dans notre émission et qui a écrit plein de livres passionnants sur les super-héros, qui est une vraie encyclopédie sur tout ce qui est super-héros. Et puis alors, il est incollable sur tout, aussi bien les super-héros français que les super-héros américains. C'est un grand passionné de BD et de comics en particulier. Et il rappelle, pour ce qu'on savait déjà, hein, mais c'est bien de le rappeler, que Captain America, à la base, quand il est créé par Joe Simon et Jack Kirby, c'est pour pousser les Américains à aller affronter les nazis en Europe parce qu'ils massacrent le peuple juif et en fait les Américains n'y vont pas, donc Captain America est créé pour ça. Donc on est loin de l'image de la réécriture un peu du Captain America de ce personnage ultra patriote et quasiment emblématique de l'armée américaine. Ce qui n'est pas à sa création. D'ailleurs, comme Superman est plutôt un personnage d'obédience marxiste, puisque dans les premiers épisodes de Superman qui avaient été republiés en intégrale en France il y a maintenant quelques années quand même, on voit Superman d'abord tuer des méchants, mais dans les méchants, il tue des patrons, par exemple, qui exploitent des ouvriers, des choses comme ça. Des choses qui bien sûr, aujourd'hui, ont totalement disparu du comics. Mais notre ami Captain America, lui, n'était pas spécialement ni pro-armée ni patriote. Enfin, il était patriote, mais il critiquait l'action de l'armée, ce que d'ailleurs on retrouve dans la BD jusqu'à aujourd'hui encore, Damien.
Oui, Civil War, pas le film, du coup, le comics est le premier, reste une des plus grandes critiques qui a pu être faite. Les discours de Captain America dans les events, ils me donnent toujours des frissons. C'est un personnage qui a... Il a un côté, on les compare souvent à Superman, mais ils ont un côté qui est assez proche. C'est-à-dire, quand ils débarquent, on sait que c'est pour quelque chose de sérieux et que c'est pour nous défendre, nous, le peuple, entre guillemets, mais nous défendre, nous, l'individu. Et autant Superman a sa présence de la situation, on est dans la merde, il y a Superman qui débarque, ça va beaucoup mieux. Et quand Captain America débarque, c'est plus, ça va être compliqué, mon gars, mais écoute-moi, on va s'en sortir. Et il te sort des speeches politiques, mais... incroyable, mais de toute façon, Civil War, c'est ça, on est dans du post-11 septembre, il y a la question de qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on enregistre dans les comics, du coup, ce qui va jouer, c'est est-ce qu'on enregistre tous les super-héros parce qu'ils peuvent être une menace, ou est-ce qu'on les garde une liberté individuelle de finalement d'être ce qu'ils sont, c'est-à-dire des super-héros. C'est un personnage qui a gardé son ampleur politique, qui a toujours critiqué finalement cette prise de position, parce que là où Iron Man va dire bah, on enregistre pour la sécurité, Captain America va dire non, c'est une question de liberté, on ne bafoue pas cette liberté. Bon, ça reste un idéal américain, mais c'est aussi un idéal pour le coup individuel, idéal qui le mènera jusqu'à mourir et qui transmettra derrière le bouclier à Faucon, ce qui est intéressant parce que c'est le moment où Captain America est un personnage qui remet souvent en cause les actions des États-Unis et le fait de transférer finalement cette vision d'un Captain America blanc et symbole d'une nation qui l'a fait à travers l'histoire à un nouveau héros noir. De base, j'avais peur que ça ne fonctionne pas beaucoup. J'ai pas vraiment suivi les runs, mais il n'y a pas eu de levée de bouclier contre ce changement. Et aujourd'hui, il est accepté, il est acté.
Ah, mais de levée de bouclier, en tout cas, y aura-t-il une levée de bouclier contre Captain America de Rod Holcomb? Non, parce que ça reste un téléfilm. Voilà, c'est un téléfilm qui a été produit pour visiblement lancer une série télé. Il y a deux téléfilms, en fait. Hein. Donc, on va vous en parler, puisqu'ils sortent en plus dans des belles copies, hein, quand même, hein, chez nos amis d'Elephant Film. Qu'est-ce que ça raconte? Alors, pourquoi on est revenu sur le patriotisme? Bon, ben voilà, parce que on biaise un peu le personnage dans ces deux téléfilms, mais on biaise bien, hein, voilà. C'est-à-dire qu'on dit Captain America, en gros, c'était un patriote. Alors que si on suit la BD, en fait, à ce moment-là, d'ailleurs, Captain America, c'était un patriote. Là, on suit le parcours de son fils, qui est joué par Reb Brown. Alors, Reb Brown, c'est quand même, même Steven Seagal est meilleur acteur, c'est quand même un acteur ultra inexpressif, enfin il faut le voir. D'ailleurs, j'ai vu Captain America en VO et Captain America 2 Death Too Soon en VF. La VF est mieux, parce que l'acteur qui double est meilleur en fait que Reb Brown. Reb Brown, il joue comme une tanche. Et d'ailleurs, il finira dans les films de Bruno Mattei. Et toute la vie de Reb Brown, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il a souvent été l'acteur vedette de ses films, hein. Mais il n'est pas bon. Voilà, c'est un gros balèze, mais c'est juste un gros balèze. C'est pas un bon acteur. On parlait de Lou Ferrigno juste avant. C'est pareil, les films qu'on reposait sur Lou Ferrigno, c'est quand même pas non plus extraordinaire. Alors, ces deux Captain America, ils ont une réputation nanardesque, hein, qui est pas spécialement usurpée, mais j'ai envie de dire, c'est pas vraiment non plus des nanars. Puisqu'il n'y a même pas le côté un peu jouissif, peut-être plus dans le deuxième, des nanars, parce que c'est plutôt des films où on s'ennuie un peu quand même. C'est-à-dire que ça manque de rythme. Et on va quand même faire l'histoire, je vais quand même vous expliquer un peu rapidement. Donc il y a Steve Rogers qui est en fait le fils du Steve Rogers originel, donc qui visiblement a disparu. Voilà. Alors qu'en fait, normalement, en vrai, si on suit la BD, il est congelé, hein, à ce moment-là. Il n'a pas disparu. Hein. Il va être décongelé par les Avengers, normalement, hein, si je suis bien la BD, mais je suis bien la BD. Et donc, bon, là, il est mort, visiblement. Puis il y a son fils, et puis il y a un scientifique, parce qu'visiblement, Steve Rogers était scientifique, hein, dans cette version-là, en tout cas dans le téléfilm, et qui dit qu'il faisait des recherches à partir de son propre ADN pour développer, en fait, une sorte de super-arme humaine, voilà. Et il se trouve que notre ami Captain America, qui est, comment dire, on est confronté à des grands, 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 grands méchants, qui, finalement, tue un de ses amis à lui, en gros, pour faire simple, à la recherche d'un microfilm pour pouvoir faire une bombe, hein. En gros, c'est ça. Il leur manque que ce microfilm. C'est le fameux microfilm qui sert à rien, en fait, mais c'est le fameux microfilm, parce que d'ailleurs, ils ont toujours pas le microfilm, qu'ils ont déjà la bombe à un moment dans le film, donc on sait pas trop pourquoi. Il y a des mystères comme ça dans ce Captain America. Il y en a plusieurs, hein.
Des mystères qui seront pas résolus.
Des mystères qui seront pas résolus dans le... Moi, j'aime beaucoup quand le méchant est dans le camion avec la bombe et qu'il a installé un rocking chair et qu'il a un livre et qu'il lit à côté, tranquille. Les mecs, j'ai une bombe atomique, je la transporte, je me suis pris un bon bouquin, je me suis installé dans le fauteuil, peinard, on sait pas pourquoi, mais bon, c'est assez drôle.
C'est incroyable. De toute façon, le plan du base du méchant est incroyable. Il a besoin d'une bombe pour menacer de faire exploser la Californie si on lui donne pas. Ok, mais si tu récupères la Californie derrière, tu fais quoi? Parce qu'en soi, il a aucune idéologie. Il veut juste la Californie pour lui. Enfin, si, il est plein de thunes, mais il veut juste la Californie pour lui.
Bah oui, mais il veut sa Californie. Comme les Qataris veulent leur club de foot. Tu comprends pas, toi. Tu comprends pas, nous, on n'a pas de sous. On sait pas ce que c'est. Nous, on sait, à un moment, tu t'ennuies. Nous, notre rêve, c'est d'avoir une PlayStation 5. Lui, c'est d'avoir la Californie. Voilà, c'est ça. Alors bon, alors le mec, comment dire, ce Steve Rogers, bah, il finit par être mêlé à cette histoire de son pote qui est mort et du microfilm et de voilà. Et bon, puis il y a la fille de son pote et tout, qui est quand même mignonne. Et puis il faudrait quand même lui annoncer tout ça. Enfin, c'est triste. Et puis lui se retrouve pris dans une bagarre. Et puis figure-toi qu'il va mourir. Et puis figure-toi qu'on lui injecte son propre ADN. Et figure-toi qu'il survit. Et qui devient Captain America, du coup. Voilà.
On lui injecte, du coup, un sérum que seul Captain America peut recevoir, vu que c'est fait à partir de l'ADN de son père, qui est, dans les comics, du coup, le sérum de super soldat, et qui s'appelle ici FLAG, Full Latente Ability Gain, qui veut... entièreté de latence d'habilité en plus, ça veut pas grandir grand chose. Enfin si, ça veut dire drapeau en anglais, mais sinon ça veut rien dire.
Oui, ils essaient de construire un acronyme à partir du mot drapeau, ce qui est assez ridicule. En même temps, pour les... Bon, écoute, ils ont de l'idée, quoi, on va dire ça comme ça.
Vous écoutez Culture Prohibée spécial super-héros.
Ça donne un film en fin de compte. Bon, là, on en rigole un peu, mais c'est quand même vraiment pas terrible parce que c'est longué. Mais dans le coffret, il y a les deux. Donc, du coup, ça vaut le coup d'avoir le coffret parce que le deuxième, c'est quand même mieux. C'est un plaisir coupable, mais c'est quand même mieux. Mais bon, dans le premier, pour moi, il y a quand même une scène mythique. C'est quand son pote, enfin le pote de son père, veut le persuader de devenir Captain America. Et il dit, parce que tout le long, il refuse. Hein. Ouais, mais non, je n'ai pas envie d'être un patriote.
Tu veux être Captain America ?
Non, je ne veux pas.
Tu veux être Captain America ?
Non plus. Il lui demande régulièrement, mais il ne veut jamais.
Écoute-moi, hein. Tu veux être Captain America parce que j'ai un super cadeau pour toi.
Voilà. Et qu'est-ce qu'il lui fait voir ?
Une camionnette.
Avec
une moto cachée dedans.
Il dit, avec ça, je vais te persuader. Et ça marche.
Je pense que c'est le bouclier qui l'a vraiment persuadé.
Parce qu'il lui propose aussi un bouclier qui en fait n'a rien d'autre qu'un frisbee. Mais il lui dit qu'il est constitué de, je sais pas, d'une matière incroyable. Bon, nous, on voit bien à la télé que c'est du plastique, mais on lui dit pas parce que visiblement il est un peu couillon, Red Brand. Donc il accepte le truc. Du coup, ça lui plaît bien. Moi, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que du coup, il part essayer la moto. Et du coup, alors j'ai calculé, je crois qu'il y a presque 8 minutes de plan où il fait de la moto. C'est quand même long. Les gars, c'est long. C'est quand même super long, quoi. Voilà. Un mec filmé de loin qui fait de la moto. Alors, il n'y a pas vraiment de mise en scène. Hein. Randol Combe, il ne s'embête pas trop. C'est filmé assez platement. Alors, ils ont fait plein de plans aériens. Du coup, on en bouffe pendant tout le film. Histoire que ça fasse une heure et demie, quand même. Parce qu'il faut que ça fasse son temps, quoi. Et bon... On va dire qu'on va oublier ce Captain America. Mais évidemment, les producteurs avaient de la suite dans les idées. Alors, ils se sont dit qu'ils allaient en faire un deuxième. Death too soon, hein, donc mort trop tôt. Hein, on va le traduire comme ça. Bon, je ne sais pas qui est mort trop tôt, d'ailleurs. Hein, mais en tout cas, c'est un titre qui a de la gueule, quoi. Voilà, hein, ça envoie du lourd. Alors, derrière la caméra, il y a Ivan Nagy. Ivan Nagy, c'est quand même... Bon, il est téléaste, il a fait plein de petits films, mais c'est pas un mauvais réalisateur. Il a fait un film un peu culte qui s'appelle Skinner sur l'histoire d'un tueur en série, qui est interprété par le frère de Sam Raimi, Ted Raimi, et il y a Tracy Lord aussi dans le film, dans un rôle, dans un film qui n'est pas un film érotique, voilà, enfin, ni pornographique. Donc, et qui est un film vraiment intéressant, pas mal du tout. Et c'est un peu le film son film passé à la postérité. C'est le film où il se lâche, où il envoie tout, quoi. Voilà, il fait un film bien glauque, un film d'horreur. Voilà. Et bon, là, c'est pas vraiment un film d'horreur bien glauque, c'est différent. Déjà, on comprend que c'est Captain America, puisque on a exactement les mêmes scènes et le même générique pendant les 5 premières minutes que dans le premier Captain America. C'est la même chose. Bon. Du coup, les mecs se rendent pas compte qu'il conduit le van qu'il avait avant d'avoir le nouveau van. C'est pas grave. On va faire comme si on n'avait pas remarqué. Et bon. Et puis après, il est toujours dessinateur parce qu'il est artiste. Hein.
Parce qu'on ne l'avait pas dit, de base, il se balade avec sa camionnette, on ne sait pas trop où, et il donne des dessins aux gens. Alors il dessine et il les donne aux gens, et on se dit à la fin du 1, c'est bon, maintenant il est Captain America et tout, et en fait, non il se balade toujours, il fait des portraits des gens, et il leur donne des dessins.
Et il a des animaux aussi, il a un chat qui s'appelle Biscotte, et il dessine Biscotte. Ah oui, c'est comme ça. C'est Captain America, les gars. C'est Steve Rogers Jr. Et voilà, et c'est Cat, avec Cat. Cat America, c'est beau, quoi. Voilà. Enfin, bref. Et donc, au départ, il est coolos, quoi. Captain, il est là, il est en bord de mer, il fait des dessins d'une vieille dame qui peut rappeler la tante May de Spider-Man. Et puis, mais elle lui dit, elle en a marre, quoi. Et il y a des voyous qui lui volent les pensions. Alors, du coup, Ah, le capitaine, il lui dit « Va chercher ta pension, mamie, je vais m'occuper de tout ça. » Ah, bon, il arrive pile poil au bon moment, hein. Et du coup, il cartonne les bandits, quoi. Les méchants, ils se prennent une tôle par Captain, hein, et il les humilie bien quand même avec une course-poursuite sur la plage qui envoie du lourd, hein, où quand même Captain court après un buggy, mais il court. C'est-à-dire qu'il a une moto, oui. On ne sait pas trop à quoi elle sert, là il apprend pas. Et,
C'est vraiment la question que je me suis posée, parce que de base, dans le premier film, quand on lui vend sa moto,
il est super content.
Tu vas voir, il y a une roquette à l'arrière, ça te permet d'aller plus vite, mais on se rend compte qu'il court aussi vite qu'une voiture au final.
Ouais, donc voilà. D'ailleurs, il y a un autre moment de ce film où il va dans le QG du méchant qui est une prison en fait. C'est assez étrange, il se déplace en moto à l'intérieur de la prison mais à l'extérieur il se déplace à pied. Alors on se dit qu'il y a un truc que Captain il a pas trop pigé quoi, ouais, parce que la moto c'est pas pour dans la maison, c'est pour en dehors de la maison. Captain, la moto c'est pour dans la rue, tout ça, sur le goudron, mais c'est pas sur le plancher quoi. C'est un peu étrange ce Captain, il a des drôles de décisions, mais bon voilà, entre deux il y a Connie Seleka qui remplace l'actrice qui faisait la laborantine. Et c'était sa fiancée dans le premier, ça ne l'est plus dans le deuxième, on ne sait pas pourquoi non plus. Une ellipse, sans doute, voilà, on ne nous a pas dit quelque chose. Alors, en gros, le schéma, c'est quand même un peu le schéma genre Steve Austin et Oscar Goldman. C'est-à-dire qu'il y a un scientifique qui l'envoie faire des missions. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que le Captain America, il travaille pour, l'État, pour les États-Unis, en fait.
Ouais, le truc, National c'est ça. Security Laboratoire.
Voilà, c'est une... C'est une antenne de la CIA, on va dire. Enfin, c'est... Voilà, il sauve le monde. Enfin, il lui dit d'ailleurs dans le premier, hein, tu viens de sauver le monde, Captain, quand même. Oui, bon, ok, bon, c'était la Californie, mais c'est le monde quand même. Mais voilà, mais les Américains ont tendance à considérer les États-Unis comme le monde entier. Hein. Voilà. Donc du coup, là, il est confronté à un méchant terroriste qui s'appelle Miguel, qui est joué par Christopher Lee, la légende, qui doit être montre en main pas plus de 8 à 9 minutes dans le film. Il est clairement venu payer ses impôts. Mais merci Christopher, parce qu'il nous donne une prestation de méchant terroriste. Hein.
De toute façon, on prend Christopher Lee, on l'appelle Miguel, et c'est un révolutionnaire terroriste. Déjà, le film partait beaucoup mieux que le précédent. On a entre guillemets, un vrai méchant.
Oui, oui, un vrai méchant qui est, comment dire, qui est, qui veut donc balancer un poison sur une grande ville, un poison qui fait vieillir. Mais dont il a l'antidote. Attention, il a l'antidote hein, quand même. Donc du coup, il demande de l'argent pour utiliser l'antidote parce que sinon, bah, voilà, il va faire vieillir et ils vont tous mourir de vieillesse. Évidemment, Captain America, il ne va pas laisser passer ça. Et il va s'occuper de tout ça avec, entre autres, une ranch woman hein, qui s'appelle Hélène et dont il va tomber amoureux. Et un petit garçon, hein, qui est un petit garçon qui aime les animaux et Captain... Les petits-enfants qui aiment les animaux et le drapeau américain, il les aime, voilà.
Ah, il aime surtout sa mère, du coup.
Bah, aussi, c'est vrai, il aime bien sa mère, donc voilà. Le capitaine, évidemment, il n'a toujours pas beaucoup de moyens, ça se voit à l'écran, hein, ça fait toujours un peu peine.
Ça se voit à son bouclier.
Et il y a une scène mythique où il finit par affronter Christopher Lee, quand même, et il lui balance son bouclier, qui est en fait un frisbee, hein, je vous le dis tout de suite, cherchez pas. Vous achetez le frisbee à 3 euros chez Decathlon, là, qui revient tout seul dans la main en plastique, c'est la même chose que le bouclier de Captain America. Ça vaut moins cher en plus. Donc, et là, il lui balance le bouclier frisbee. Bon, évidemment, l'autre, avec un tout petit mouvement, il l'évite, genre, mec, je t'humilie, quoi, voilà. Et ça donne un moment absolument involontairement hilarant, mais c'est vraiment hilarant.
Mais
voilà.
C'est drôle, mais c'est quand même une scène qui est pensée parce que les premiers méchants, ils les arrêtent comme ça, ils lancent son bouclier, ils esquivent, sauf qu'ils ne le voient pas revenir et du coup, ils se font abattre. Ils se font arrêter comme ça. Mais c'est vrai que contrairement au premier, celui-ci, déjà, il y a plus d'action, ce qu'on peut saluer. J'étais en train de... Alors, c'est un détail, mais son arrivée dans la ville, elle est assez incroyable parce que tous les gens sont insupportables. Au départ, on ne comprend pas pourquoi, mais ça donne tous les gens à qui il demande de l'aide ou des informations, ils lui disent « Allez voir dans la grande ville d'à côté, allez voir dans la grande ville d'à côté. » Et lui, il est en mode « Non, non, je veux rester ici. » Et ils lui disent « Mais si, vous êtes vraiment gênant, allez voir dans la grande ville d'à côté. » Voilà. Et sinon, l'un des plans aussi iconiques, en plus de l'affrontement avec Christopher Lee, ça reste la moto qui fait également deltaplane quand il y a besoin de s'enfuir. Bon, on voit les arbres et le lampadaire du parking, mais elle est là.
Ah, mais c'est... C'est spectaculaire, ça donne un côté un côté un peu Superman à notre Captain America. Hein. Et là, la moto, elle sert quand même un peu plus dans celui-là. Au moins, il se jette d'un barrage. Voilà. Enfin, il y a des scènes un peu plus spectaculaires.
Mais en même temps,
quand même,
c'est normal qu'elle sert plus parce que le premier film, il fait 1h30, mais la moto et Captain America débarquent au bout d'une heure.
C'est vrai. Alors c'est vrai.
Là, on l'a délai pas. Mais au final, le seul problème qu'ont ces films, parce que le 2, il a, enfin, l'intrigue avec le poison qui fait vieillir, je l'aime beaucoup parce que je trouve que ça rajoute. Ça prend de l'importance dans l'intrigue. Au départ, on n'arrive pas trop à le saisir et ça a quelque chose de plus de palpitant, même s'il reste des longueurs dans ce film. Mais le vrai défaut des deux films, c'est qu'au final, ça reste vraiment des épisodes, de longs épisodes de séries de leur époque.
Ouais, voilà. Avec en plus. La musique de Mike Post et Pete Carpenter, qui n'étaient pas très en forme, qui ont composé beaucoup de musique de séries télé, donne l'impression qu'à un moment, Barracuda va surgir et que c'est l'agence touriste qui va débarquer. Voilà, c'est assez drôle. Et j'adore l'agence touriste. D'ailleurs, l'intégrale est disponible chez Elephant Film. Hein, je l'avais chroniqué dans cette émission. Écoutez Culture Prohib. Ça reste quand même nettement moins bon que l'autre téléfilm dont on va parler là, qui était 78, qui est sorti avant, qui ressort en plus chez Elephant Film dans une très belle version restaurée en 2K, qui est en Blu-ray, qui est le Doctor Strange. Eh oui, les amis, le Doctor Strange, ce n'est pas que les derniers films Marvel. Voilà, où même mon idole Sam Raimi a réussi quand même un peu à se fourvoyer dans le dernier, là. Bon, tu vois que Damien fait un peu la moue. Bon, c'est pas nul, Damien, mais c'est quand même pas extraordinaire quand on connaît le potentiel de Sam Raimi, quoi. Voilà, je reste très, très mitigé sur ce film. Hein. Bon, là, le Doctor Strange qui nous est donné à voir... Il est réalisé par Philippe de Guerre, junior d'ailleurs, qui est un vrai stacanoviste de la télé, hein, qui a beaucoup travaillé à la télévision. Et il met en évidence une sorcière, Morgane Le Fay, la belle Morgane Le Fay, qui, sous les ordres d'une entité qui ressemble à Dormammu quand même, hein, mais qui n'est pas nommée Dormammu, comme d'ailleurs, normalement dans la BD, c'est pas Morgane non plus, hein. Mais bon, là, c'est Morgane, voilà. Il y a Cléa, par contre, dans le téléfilm, là, dont on va parler, et qui décide de tuer son rival, un vieux sorcier qui s'appelle Thomas Lindmer. Thomas Lindmer, lui, il a trouvé son descendant, celui qui va hériter de ses pouvoirs occultes et qui va donc pouvoir protéger la Terre du mal. Son descendant, c'est un certain Doctor Strange, qui est un psychologue, non pas du coup comme dans la BD, un chirurgien qui est répudié, qui a fait une erreur lors d'une opération parce qu'il buvait, qui n'arrive plus à opérer parce qu'il tremble à cause de son alcoolisme. Là, le Doctor Strange, c'est plutôt un psychologue très aimé, très apprécié de ses patients, très à l'écoute, très en but contre la transformation de l'hôpital en une sorte de McDo. C'est rigolo, cette thématique du film, d'ailleurs, qui est très proche des préoccupations d'aujourd'hui sur le devenir de l'hôpital en France, mais qui l'était donc déjà prégnant aux États-Unis à la fin des années 70, où en gros, on aimerait bien faire plus d'actes, ça rapporte, il n'y a pas assez de lits, donc on ne peut pas garder tous les malades sur place. C'est des choses qu'on retrouve aujourd'hui. Il y a une discussion à un moment avec une réunion de direction, et Dr. Strange, au milieu de tout ça, lui, c'est plutôt le hippie babacou, le type qui est plus open, qui est, c'est pour ça qu'il est psychologue d'ailleurs, parce que il ne croit pas du tout aux sciences occultes, mais en même temps, il est capable de faire preuve d'ouverture, tout ça. Parce que lui, il réfléchit avec sa tête, il réfléchit sur les esprits, tout ça. Enfin bon, bref, il sait que l'inconscient, ça existe. Il croit en la psychologie, il croit en la psychanalyse. Donc forcément, par extension, pour les scénaristes qui ont décidé de modifier le postulat de départ, eux, ils se sont dit que si le mec, il croyait en la psychanalyse, il pouvait croire aux univers parallèles et aux démons. Ils ont décidé que c'était comme ça, voilà. Et Il se trouve que il y a une patiente qui arrive, une patiente qui est donc attaquée par cette Morgane Le Fay. Alors lui, le docteur Strange, c'est un petit séducteur hein, quand même. On voit aussi qu'il y a une infirmière avec qui il a une relation assez rigolote, parce que en fait, on pourrait s'imaginer que ça a été que de temps en temps, quand ils s'ennuient tous les deux, ils vont se faire une petite soirée, une petite sieste crapuleuse. Voilà. Ils parlent, en tout cas, les dialogues le laissent supposer. Et lui, c'est un petit séducteur, tout ça. C'est un mec très gentil avec ses patients. Et il voit débarquer une très jolie patiente qui s'appelle Cléa et qui est en fait possédée par l'esprit de Morgane, et qui du coup a peur de s'endormir, parce qu'à chaque fois qu'elle s'endort, il lui arrive des trucs assez ignobles, des trucs horribles. Et en particulier, d'ailleurs, elle a été manipulée par Morgane pour essayer de tuer, d'ailleurs, Thomas Lindmer, mais elle n'y est pas arrivée, voilà. Donc, et lui, bon, il tombe un peu amoureux d'elle, et puis bon, bah, comme elle est sous l'emprise de Morgane, il voudrait bien la délivrer de cette emprise. Et il y a Thomas Lindmer qui lui explique un peu, avec son sidekick chinois, hein, et qui lui explique un peu, qui existe hein, dans la BD hein, d'ailleurs, hein, c'est pas du tout un truc rajouté pour la série. Et donc il lui explique qu'il faut qu'il aille dans une autre dimension, qu'il aille se battre pour la récupérer, tout ça. Et c'est ce qui va se passer, puis petit à petit, en fait c'est l'histoire modifiée, remise au goût du jour, c'est des nouvelles origines pour le Docteur Strange, dans le but d'amener une série derrière. Série qui n'aura pas lieu. Moi, j'ai envie de dire malheureusement, parce que je trouve que la photo est chouette, la photo d'Enzo Martinelli est chouette, que les décors, on devine qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, mais que les décors sont très soignés. On est vraiment dans l'univers de Doctor Strange, c'est assez cool, quoi. Pour employer une expression que je n'emploie que très rarement, mais c'est assez cool. J'ai l'impression d'être dans la BD. En plus, c'est un hasard, il se trouve qu'il y a peu de temps, j'ai relu, sous l'impulsion de mon ami Christophe Chavdia, que je salue, l'intégrale de Doctor Strange, illustrée par Gene Colan, parce que je suis un gros fan de Gene Colan. Et du coup, je me suis racheté les volumes qui me manquaient sur des sites, tout ça, puis j'ai relu tout ça d'affilée. Voilà, et j'ai pris un pied pas possible, et j'ai retrouvé quand même cet état d'esprit un peu qu'il y avait dans la BD, je l'ai retrouvé dans ce téléfilm qui a un petit côté en plus baba cool, quoi, un peu très très 70s, très décontracté. La musique de Paul Sciarra déglingue, c'est une musique un peu funky, voilà. Le film démarre d'ailleurs sur une ambiance noire, ambiance un peu film noir, musique funky, jazzy funky, là, ça démarre super bien. Bon, après, il y a quelques longueurs parce qu'ils étirent un peu l'intrigue pour que ça fasse une heure et demie, quoi, mais franchement, Damien... c'est d'une autre trempe que les Captain America. Il y a une autre ambition, je trouve.
L'introduction, elle est incroyable. Elle nous jette dans le film vraiment très vite. Alors, l'introduction, elle se fait en plusieurs parties. C'est-à-dire qu'on va avoir d'abord un panneau qui va un peu nous expliquer ce qui va se passer un peu à la Mortal Kombat. Tous les temps d'années, il y a un affrontement et tout. Et du coup, on arrive à l'année où il y a l'affrontement. C'est pour ça qu'on a le démon qui demande à Fay Morgan d'aller tuer le sorcier suprême, parce que il faut qu'il meure s'il veut pouvoir revenir, et que si jamais elle n'arrive pas à le tuer, qu'elle traque son successeur qui est l'homme à la bague. Super définition pour trouver quelqu'un dans une foule aléatoirement. Et derrière, on a une introduction vraiment horrifique avec des pages satanistes, les noms qui apparaissent. Et derrière, on a l'introduction avec justement le sorcier suprême qui est Thomas Lindman, avec Wong qui n'est pas cité. Enfin, si, il est cité vraiment bien plus tard, à la 18e minute. Et au départ, je trouvais ça étrange parce que je me disais, mais ils ne l'introduisent pas. Il arrive, je l'appelle juste le sorcier suprême maître. On ne sait pas, et c'est vraiment, je crois qu'ils disent qu'une ou deux fois son nom dans le film, mais sinon il est juste là, il comprend qu'on lui parle. Alors comme tu l'as dit, il a des origines différentes. Ce que je disais en blague, c'est qu'ils se sont trompés de comics pour le Strange, parce que le Strange qui est psychologue, c'est celui de Batman, c'est Hugo Strange. Mais là, dans le contexte, ça fonctionne bien. L'une des différences avec le Strange des comics, qui est vraiment mis en avant ici, c'est son côté humaniste. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, normalement, les hôpitaux aux États-Unis, c'est privé, ça veut dire qu'ils ont besoin de faire entrer de l'argent. Et lui, il veut vraiment aider les patients quand Cléa arrive et qu'elle est malade. Normalement, ils sont censés donner des médicaments pour calmer et apaiser. Et là, Docteur Strange refuse en disant non, elle a peur de dormir, on va pas lui donner. Il est à l'écoute des patients et il leur fait confiance. C'est vraiment ça le point fort du héros. J'aime beaucoup. Alors, les effets spéciaux sont inégaux, mais c'est à cause de l'époque. Mais tous les effets de psychédélisme sont vraiment bien quand ils voyagent dans la conscience. C'est vraiment très cool. Et un truc qui est dommage pour le fait que ce soit pas poursuivi, c'est que Stan Lee a été consultant dessus et il en tire l'un des meilleurs souvenirs d'un tournage qu'il ait pu faire. Il a vraiment adoré être présent, c'est-à-dire que même par rapport à ce que le MCU fait aujourd'hui, il a vraiment préféré, pour lui c'était pour lui quelque chose d'extrêmement triste que la série ne se poursuive pas. Il ressemble à ce que c'était un des défauts que je disais pour Captain America, c'est qu'il finalement c'était un épisode de série de leur époque étalée. Lui c'est un peu pareil, mais il est pas ennuyant. On arrive à être projeté dans l'épisode, à le suivre jusqu'au bout. L'intrigue passe par des éléments bizarres. Par exemple, on a ce moment où on demande à Morgan pourquoi elle l'a pas tué, et on comprend qu'elle le trouve beau et qu'elle l'aime, et
elle est attirée par lui, ce qui est tout à fait dans l'air du temps. Les femmes fortes qui prennent leur destin en main, en fait elle dit merde à Dormammu, elle dit moi j'ai décidé de faire ça, et l'autre d'ailleurs lui rappelle, elle dit donc ma vieille, en fait c'est quand même moi qui décide, s'il voyait ta vraie tronche. Et puis elle se voit dans le miroir, dans l'eau très vieille et tout ça.
Mais c'est super, je trouve que cette scène est vraiment très cool parce qu'elle est en mode moi je l'aime bien, j'aimerais bien coucher avec ou qu'il soit mon compagnon. Le démon lui fait oui, mais si tu fais ça je te retire tout ce qu'il y a. Et du coup il y a cet instant où elle doit choisir finalement entre la vanité de son apparence et son désir sexuel, ce qui conduira à l'action qui arrive ensuite, mais qui est tout aussi cool parce qu'elle est elle veut les deux, elle pense qu'elle est capable de l'avoir, parce qu'au final on pourrait y mettre une symbolique derrière, mais ce qui empêche son plan de s'accomplir, c'est finalement que Doctor Strange refuse de retirer la bague qu'on lui a léguée, qui est liée à son pouvoir. Je sais pas, il y a un truc.
Parce qu'il est tenté, hein, Doctor Strange. Hein, c'est pareil, il y a une ambiguïté. Bon, l'acteur n'est pas extraordinaire qui fait Doctor Strange. Il est un peu monolithique, malheureusement. C'est un peu le seul défaut que je trouve à ce Doctor Strange. Mais tu as raison, sur l'aspect visuel. Déjà, ils ont une super idée. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils n'ont pas les moyens de construire un univers qui, visuellement, va être quelque chose de très impressionnant, un peu à la manière des Doctor Strange, là, produits par les studios, où il y a vraiment quand même des moyens faramineux. Bon, des fois, c'est moche quand même, les trucs en numérique, mais il y a des moyens, voilà. Là, ils ne les ont pas, du coup, ils prennent le pari du fond noir avec quelques éclats de lumière et tout, ça passe super bien.
Ça fonctionne à la perfection.
Carrément.
Parce qu'on ne se dit pas qu'on est face à... Enfin, on se dit que ça n'a pas beaucoup de budget, mais on se dit qu'on a affaire à un univers vraiment à part. Et ça rajoute le côté noirceur. Toute l'idée de magie noire fonctionne.
Et je suis comme Stanley, je suis déçu qu'il n'y ait pas eu la série derrière. Et je pense que ça aurait été chouette. Et d'autant plus que Morgan... vu le final, Morgan, ça aurait été la méchante attitrée et qui ne manque pas de charme quand même. L'actrice, elle est très... elle porte très bien son rôle, je veux dire. Elle a un côté vénéneux, elle a un côté qui est assez chouette. Donc je trouve que c'est tant pis. Mais en tout cas, je vous invite à vous précipiter sur ce Blu-ray qui est vraiment une chouette sortie de chez Elephant Film. Moi, ça a été une découverte, je ne l'avais jamais vue et je suis tombé sous le charme de ce téléfilm sans prétention. J'ai beaucoup aimé. Écoutez Culture Prohibée spéciale super-héros. On va terminer cette émission avec un film alors qu'on avait déjà abordé hein, lors de sa sortie il y a plusieurs années de ça, lors de sa sortie en Blu-ray chez Elephant Film. Hein, c'est Howard the Duck, parce qu'en 86, l'émission n'existait pas. Hein, c'est un film de 86. Howard the Duck, on n'aura pas vraiment besoin de vous représenter le comics un peu, comment dire, enfin pas un peu, le comics anticonformiste de Steve Gerber qui est là porté à l'écran avec George Lucas qui est aux manettes derrière, qui est le premier film officiel Marvel avec le logo Marvel au début. C'est un film pour le cinéma, parce que les films dont on a parlé depuis tout à l'heure, certains sont sortis au cinéma, mais c'était des téléfilms à la base, c'est pas des films produits pour le cinéma. Et celui-là, c'est le premier. Tout le monde y croit beaucoup, hein, puisqu'il y a George Lucas à la production. C'est pas un film fauché. Il y a Willard Huck à la réalisation. C'est un film qui s'est fait défoncer par la critique lors de sa sortie. Mais alors, défoncer, c'est un euphémisme. Il a été accusé de tous les maux. Et c'est un film, pourtant, qui s'inspire d'une BD plutôt chouette, mais un peu foutraque, de Howard the Duck. Moi, quand je l'ai lu, j'étais un peu déçu quand j'ai lu la BD, en fait. C'est pour ça que je trouve que le film est bien, en fin de compte. Hein. C'est l'histoire d'un canard qui vient d'une galaxie où il n'y a que des canards, en fait, et qui maîtrise une version canard du kung-fu. Hein.
Le kouak-fu.
Le kouak-fu, dans la traduction française de kouak-fu. Hein. Qui se retrouve, il est tranquille chez lui, peinard, dans son appart, devant des affiches détournées de Indiana Jones, tout ça, enfin bon, bref. Et tout à coup, à cause de scientifiques qui font un truc sur Terre, ils se retrouvent téléportés sur Terre et ils débarquent dans le monde des humains, dans notre monde, voilà, dans le monde urbain aux États-Unis. Et il arrive à Cleveland. Et bon, ça va être tendu, surtout qu'il aime toujours autant les cigares et la picole. Hein, et parce que l'une des caractéristiques du héros, c'est cigare, picole et kouak-fu, c'est ces trois caractéristiques. Et un tout petit peu obsédé sexuel. Beaucoup plus dans la BD. D'ailleurs, c'est là où je trouve que ça pêche dans le film. Parce que le film est chouette, très rythmé et tout, mais c'est là où ça pêche. Et il va rencontrer une roqueuse qui est interprétée par la toute Mimi Lea Thompson, qui est toute jeune, qui à l'époque fait Retour vers le futur aussi. C'est dû sortir à peu près en même temps. Enfin, elle sait ce que c'est que le succès là. Elle va savoir ce que c'est que se prendre une dégelée au box-office. Hein, voilà. Elle va l'amener à un ami à elle qu'elle prend pour un grand scientifique qui est pas vraiment, qui est plutôt un aide laborantin, mais qui, à mon avis, l'a un peu baratiné pour la dragouiller dans les coins. C'est Tim Robbins, qui en fait 15 tonnes, hein, Tim Robbins, qui est tout jeune. Et donc, il va croire que ce canard, c'est le chaînon manquant dans l'évolution de l'espèce humaine. Mais sauf que ce canard, il va devoir sauver l'humanité, parce qu'il voilà, il va se passer quelque chose. Moi, j'ai envie de dire que d'abord, c'est un film qui jouit d'une mauvaise réputation totalement imméritée. C'est bien mis en scène. La photo est très belle. Moi, les effets spéciaux, je les trouve très chouettes. Je ne sais pas pourquoi on nous dit que les effets spéciaux sont nazes. Moi, je trouve ce canard très, très bien. Il est très fidèle, en plus, à celui de la BD. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de souci. Moi, je trouve que tout le film est super pendant une heure. Je suis scotché par le film. Je me retrouve vraiment, c'est assez fidèle à la BD, en tout cas au peu de BD que j'ai lu de Howard the Duck. Et puis, tout à coup, se passe une scène assez étrange, quand même, dans un film. Moi, je pense que si ce film n'a pas marché, c'est qu'il était invendable. Parce qu'il n'était pas pour les enfants, mais il n'était pas vraiment pour les adultes non plus. Il était entre les deux, les gars, il fallait choisir votre camp. Soit vous choisissiez le camp des adultes, soit vous choisissiez le camp des enfants. Parce qu'à un moment, il se trouve que le canard, il se retrouve au Plumard avec Lea Thompson. Et bon, le réalisateur filme avec insistance quand même Emma Thompson en très petite tenue. Voilà. Donc c'est là que c'est plus vraiment pour les enfants. Et se dessine l'opportunité d'une relation sexuelle entre les deux. Voilà. Et là, le canard, donc quand même, on va quand même jusqu'à nous symboliser son excitation, son érection, via une crête qui se hérisse sur son crâne. Donc on se dit, ben ils vont le faire. On se dit, ben là, le film, il va rejoindre le panthéon des films barrés à la Fritz the Cat et tout ça. Ils vont aller jusqu'au bout. Et puis là, non. Le canard, il devient tout timide. Et en fait, c'était une plaisanterie. Et à partir de là, je trouve que cette scène symbolise, en fait. À partir de là, je me dis, le film ne va pas au bout. Il devrait aller plus loin. T'es pas obligé qu'on voit une scène de sexe. Je ne sais pas ce que je veux dire. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que On aurait pu faire un cut, terminer là, puis imaginer qu'ils aient une histoire d'amour. Voilà, c'est pas grave, ça, qu'on le voit ou qu'on le voit pas. C'est pas ça mon propos. Mais ce que je veux dire, c'est que cette scène, elle symbolise le fait que le film, il est le cul entre deux chaises. Et que du coup, le film n'a pas trouvé son public. Il n'en reste pas moins que c'est quand même un objet filmique non identifié. C'est un film absolument unique. Et que j'ai pris beaucoup de plaisir à le revoir. Et que je regrette qu'on n'ait pas vu d'autres War the Duck sur grand écran. En plus, les Gardiens de la Galaxie, ils nous ont presque fait croire qu'il allait revenir. Mais non, il est pas revenu, parce que comme dans cet univers Marvel, ils nous font n'importe quoi, là, de toute façon, donc au cinéma, je parle. Donc du coup, on n'a pas revu Howard le Canard, qui pourtant, mon cher Damien, était plutôt sympathique quand même.
Il est très bizarre, ça c'est sûr. Il y a notamment avec cette tension zoophile qui est présente, qui est mise en avant à ce moment-là et qui reste présente dans tout le reste du film. Au casting, il y a aussi Geoffrey Jones qui joue un scientifique. Et quand je l'ai vu débarquer, j'ai crié dans mon salon, le proviseur de Ferris Bueller. J'étais aux anges. On connaît aussi pour Beetlejuice. Et comme tu dis, c'est un film qui a beaucoup souffert de cet entre-deux parce que le fait d'avoir. Je pense qu'il voulait faire un film. Pour adultes, clairement. Pour moi, c'est même avant la scène de tension dans le lit, tu as le moment où elle fouille son portefeuille et qu'elle sort une capote qui, pour moi, marque déjà le moment où il s'ancre bien dans ce paysage adulte. De ce que j'ai vu, il y avait eu un débat parce que de base, l'adaptation devait être un film d'animation et je pense que ça aurait porté encore, enfin, préjudice au film parce que je pense qu'il aurait totalement été vendu du coup comme un truc pour enfants et c'est Universal du coup qui a distribué le film, qui a voulu absolument un truc live, pas de problème. Le monde des canards est très cool même si on n'y reste pas longtemps. Howard est parfait, il bouge, il réagit, c'est quelque chose, il est bien fait quoi. Et il y a la BD de Steve Gerber, c'est un personnage qui est absurde et qui s'auto-parodie et on voit que c'est un film qui a beaucoup marqué parce que derrière Marvel savait pas trop comment l'utiliser. D'ailleurs il s'est battu avec Marvel pour garder les droits. C'est un truc qu'on n'a pas dit, mais par exemple dans le Superman de Max Fleischer, il y a quand même les noms des créateurs de Superman qui sont présents, alors que dans les autres films à aucun moment ils sont indiqués, y compris dans celui-là. Et en fait, c'est un film qui est tellement renié que tout à l'heure, je vous parlais de Civil War, le moment où les super-héros hésitent à s'enregistrer ou pas. Dans Civil War, tu as Howard the Duck qui va pour se faire enregistrer et l'administration qui s'occupe d'enregistrer les super-héros refuse de l'enregistrer comme super-héros parce qu'ils ne reconnaissent pas son existence. Je pense en dit long sur l'impact qu'a eu le film. Il y a aussi un truc qui est très cool dans le film, c'est le flegme général de tous les personnages. C'est-à-dire que Howard tombe dans un monde d'humains, il est paniqué parce qu'on frappe un peu de partout, mais il s'habitue vite. Et tous les humains qui le croient sont en mode, bon, c'est quelqu'un déguisé en canard ou c'est un enfant déguisé en canard. Et au moment où ils comprennent que c'est vraiment un canard, bah, ça les choque pas plus que ça.
Non.
C'est un flegme général que je trouve absolument génial. Et en prenant du recul sur le film, je trouve qu'il a un côté Hellboy, dans le sens où on a une entité qui vient d'une autre dimension, qui se retrouve à devoir s'adapter finalement à la façon dont les humains vivent, et qui à la fin se retrouve à devoir botter le cul d'une entité qui vient d'une autre dimension. Alors, c'est juste un rapprochement qui est étrange, mais je trouve ça drôle qu'il soit présent. Et comme tu l'as dit, Howard the Duck est revenu dans les Gardiens de la Galaxie dans une scène post-générique. D'ailleurs, moi, j'ai toujours cru qu'il était détective, parce qu'un gars qui boit du whisky et qui fume des cigares, pour moi, ça a toujours été un détective jusqu'à ce que je vois le film et que je me dise « Ah, en fait, il n'y a aucun lien ». Et normalement, il devait avoir une scène dans Endgame, du coup, une scène pas importante, mais une scène assez longue que les Russo voulaient mettre. Et au dernier moment, Disney a dit « On coupe et on retire la scène ». Donc, mystère, parce qu'il y a beaucoup de monde qui attend la réintroduction de Howard the Duck dans le MCU.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone. Une émission animée avec Damien Demey dit La Bête Noire de Compiègne. Assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. And the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.